Radio Prague, les informations. Bonjour, Dimitri Medvedev a entamé une visite de 2 jours en République tchèque. Sommet de l'Union européenne, la République tchèque est prête à soutenir les changements des traités axés sur la zone euro. Et puis enfin, éducation, 25 000 enseignants étaient en grève ce mercredi matin. Comme annoncé en titre, le président russe Dimitri Medvedev a entamé ce mercredi une visite de 2 jours à Prague. L'appel d'offres pour l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin constitue le thème principal des entretiens que le chef du Kremlin aura avec son homologue tchèque Václav Klaus et le premier ministre Petr Nečas. Le groupe tchéco-russe Škoda Guidopress et Atomstroy Export fait partie des 3 candidats pour cette commande énergétique parmi les plus importantes dans le monde. La signature d'un certain nombre d'accords dans le domaine économique est également prévue, la crise financière européenne ou encore l'installation du système de défense antimissile de l'OTAN en Europe seront également abordées. Par ailleurs, ce jeudi, le président russe inaugurera au château de Prague une grande exposition d'œuvres d'art du Kremlin. L'ONG tchèque Člověk v tísni, l'homme en détresse, organisera, elle, à proximité du château, un happening pour contester les résultats des élections législatives qui viennent de se tenir en Russie. La République tchèque soutiendra lors du prochain sommet de l'Union européenne les changements des traités s'ils concernent en premier lieu les pays de la zone euro et ne conduisent pas à une fragmentation de l'Union. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas. S'il s'avère que les options dont nous disposons actuellement sont insuffisantes pour apporter une solution efficace à la situation actuelle, il sera plus correct et plus transparent de discuter d'un changement pertinent des traités de l'Union européenne, a expliqué le chef du gouvernement. L'Allemagne et la France ont proposé, rappelons-le lundi, des changements visant à raffermir la discipline budgétaire afin de conjurer de futures crises de la dette. Ce plan intervient alors qu'une menace de dégradation des notes plane au-dessus de la zone euro. 1620 écoles dans le pays, soit environ une école sur 6, sont restées fermées pendant 1 heure mercredi matin et n'ont ouvert leurs portes qu'à 9 heures en raison d'une grève des enseignants. Environ 25 000 instituteurs et professeurs ont protesté contre la suppression de l'augmentation automatique de leur salaire en fonction de l'ancienneté. Dans le nouveau système qu'entend appliquer dès janvier prochain le ministre de l'Éducation et qui était débattu ce mercredi par le gouvernement, ce sont les directeurs des écoles qui devraient décider de l'éventuelle revalorisation des salaires des enseignants. Les 29 médecins militaires tchèques envoyés vendredi dernier par le gouvernement en Slovaquie voisine reviennent au pays, selon une information communiquée par l'état-major tchèque ce mercredi. En fin de semaine dernière, les autorités de Bratislava avaient décrété l'état d'urgence et demandé de l'aide au gouvernement tchèque suite à la démission collective de 1200 médecins hospitaliers, mécontents de leurs revenus. Quelques heures avant l'arrivée des médecins tchèques à Bratislava, le gouvernement slovaque s'est toutefois finalement mis d'accord avec le syndicat des médecins sur le montant de l'augmentation salariale. Les médecins tchèques spécialisés en anesthésiologie, chirurgie, traumatologie, médecine interne, psychiatrie et urologie ont néanmoins effectué depuis samedi dernier 100 d'interventions dans les 4 hôpitaux slovaques où ils avaient été envoyés en renfort. La direction de CSA, Czech Airlines, a annoncé ce mercredi qu'elle allait prochainement licencier 33 premiers pilotes. La décision a été confirmée lors de la réunion avec l'association tchèque des pilotes de transport. Au total, la compagnie aérienne publique, confrontée à d'importantes pertes financières depuis plusieurs années et qui a adopté un vaste plan de restructuration, prévoit de licencier 100 de ses pilotes assurant les vols sur des lignes régulières. Et puis Air France va ouvrir une nouvelle ligne directe entre Prague et Toulouse à compter du 1er avril 2012. Les liaisons entre les deux villes seront assurées 5 fois par semaine après Paris, Lyon et Marseille. Toulouse constituera la 4e destination française pour laquelle Air France proposera depuis Prague des vols directs. Voilà, et puis on termine avec un mot de météo. C'est un temps très variable qui règne sur la République tchèque ce jeudi, jour de la fête des Kvikvis. Kvetoslava, excusez-moi. Les précipitations alterneront avec les éclaircies. Quelques chutes de neige sont également prévues au-dessus de 400 mètres d'altitude. Les températures, quant à elles, sont stables et varient entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie d'Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, il y aura de la politique internationale et du football. De la politique internationale avec la venue du président russe Dmitri Medvedev à Prague. Il sera ici pour plusieurs heures et passera même la nuit dans la capitale tchèque. On vous en dira un peu plus avec le politologue Petr Drolak. Et puis du football avec le match nul 2-2 entre Plzeň et le Milan AC. C'était mardi soir. Dans la suite du programme, ce sera le chapitre de l'histoire avec le Rococo Pragois. Très bonne écoute. Le président russe Dmitri Medvedev arrive ce mercredi soir donc pour une visite de 2 jours à Prague, une visite placée sous haute sécurité avec notamment la fermeture du château de Prague pendant 24 heures, 400 policiers mobilisés pour la sécurité du couple présidentiel russe. En marge de cette visite, l'ONG Človek v tisni, People in Need en anglais, organisera jeudi à proximité du siège de la présidence tchèque un happening pour contester les résultats des élections législatives russes. Quels sont les enjeux de cette visite? Quels accords doivent être signés entre les deux pays? Autant de questions qu'a analysé Petr Drulák, directeur de l'Institut Pragois des Relations Internationales. Il a été joint au téléphone par Anna Kubišta. Il est d'abord revenu sur le contexte historique des relations tchéco-russes.
Ce n'est pas la première visite du président russe dans la République tchèque. C'est toujours le cas qu'il y a une image de la Russie qui est influencé par l'histoire malheureuse entre la Tchécoslovaquie communiste et l'Union soviétique communiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce poids de l'histoire diminue. Donc je ne pense pas que l'ombre de l'histoire sera tellement fort pendant cette visite.
Alors, plusieurs thèmes sont au programme de la visite de Dmitri Medvedev en République tchèque, notamment la question de l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín. Il se trouve que parmi les entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres, il y a une entreprise française, Areva, et une entreprise russe qui sont en lice pour cet appel d'offres. Quels sont un petit peu les enjeux de cette visite par rapport à cette question de Temelín?
Je pense que l'achèvement de Temelín est vraiment la motivation principale derrière cette visite, bien qu'il y a un ordre de jour pour cette visite qui est plus élargi. Il y a beaucoup de choses à discuter. Ce n'est pas seulement la compagnie russe et la compagnie française, c'est aussi la compagnie américaine qui sont les candidats pour ces projets. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que les Russes font les efforts les plus convaincants en comparaison avec les rivaux américains ou français. D'un autre côté, de point de vue de la stratégique en ce qui concerne la dépendance énergétique du pays de la République tchèque de la Russie, c'est quelque chose qui fait les offres occidentaux plus intéressant. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, pas seulement pour la République tchèque, mais aussi pour les candidats, parce que cet achèvement va coûter plusieurs centaines de billions de couronnes tchèques, ce qui est une somme considérable, même pour les grandes entreprises américaines, françaises ou russes.
Et puis alors il y a aussi la question du désarmement. L'an dernier, on s'en souvient, Dmitri Medvedev était à Prague pour signer un accord de désarmement mutuel avec Barack Obama. Or récemment, il y a eu quelques petits changements, en tout cas une évolution de la position russe. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Où est-ce qu'on en est?
Oui, il y a des querelles entre la Russie et les États-Unis en ce qui concerne le projet des boucliers antimissiles américains, parce que la Russie se sent exclue de ce projet. Elle la considère comme un projet anti-russe. Elle a réagi en disant que si le projet continue dans cette direction, la Russie ne sera prête à continuer avec cette initiative vers le désarmement nucléaire.
Ce ne sont pas ces deux thèmes uniquement qui sont au programme de la visite, il y a des thèmes un peu annexes. Il y a des accords bilatéraux qui doivent être signés entre la République tchèque et la Russie. Quelle est un peu l'importance de ces accords?
Oui, il y a un accord qui sera signé porte sur la coopération culturelle. est un grand événement qui accompagne cette visite du président russe. C'est l'ouverture d'une grande exhibition qui va montrer les trésors du Kremlin au public tchèque. Mais il y a aussi un accord qui est économique ou stratégique qui porte sur l'intégration d'une compagnie tchèque dans le système de l'entretien et de la réparation des hélicoptères militaires russes, qui pourrait améliorer la situation économique d'une compagnie tchèque. Donc, il y a des accords culturels, mais des accords économiques aussi.
Pour terminer, comment est-ce que, en quelques mots, vous pourriez caractériser les relations entre Prague et Moscou à l'heure actuelle?
Je pense que c'est une relation qui est très importante de la point de vue économique, mais en ce qui concerne la relation politique, c'est plutôt froide. Ce n'est pas la guerre froide, mais ce n'est pas une amitié chaleureuse non plus.
Après la politique internationale et l'économie du football, le Victoria Plzeň disputait mardi soir son dernier match dans la prestigieuse Ligue des Champions contre le Milan AC. Les Tchèques ont fait bonne figure et ont conforté leur troisième place du groupe qui leur permet d'être reversés en Ligue Europa. Jusqu'à la dernière minute pourtant, cette dernière prestation dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe avait un goût amer. Menés 2-0 à la 89e minute, les joueurs de Plzeň n'avaient pas démérité, mais deux grosses erreurs défensives et un certain manque de réussite devant le but adverse avaient laissé le réalisme milanais décider du sort de la rencontre. Les stars du Milan AC, Pato et Robinho, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions, ont inscrit les deux buts italiens en tout début de deuxième mi-temps. À quelques secondes d'intervalle, la défense centrale de Plzeň a flanché. Les Milanais ont rempli leur mission et se sont repliés dans leur moitié de terrain. Les Tchèques sont restés abasourdis pendant quelques minutes. Le sort semblait être scellé, d'autant qu'ils ont perdu Petr Jiráček, l'homme aux trois poumons qui s'est blessé à la cheville en première période. Mais tous voulaient quitter la Ligue des Champions sur une bonne note. L'entraîneur Pavel Vrba fait quelques changements en attaque. Les défenseurs montent et c'est finalement l'un d'eux, David Bistroyn, qui va marquer à la 89e minute. Le stade de l'Eden reprend alors vie. Et même le gardien Marek Čech s'approche du but adverse sur un dernier coup franc. Mais c'est finalement l'attaquant slovaque Michal Djuric qui va réussir à prendre le dessus sur le défenseur français Mekšec pour déclencher sa frappe et marquer finalement le but de l'égalisation à 2-2. Un but salvateur à la dernière seconde qui permet donc à Plzeň de finir l'année en beauté. On écoute tout de suite Pavel Horvat, le capitaine de cette équipe.
Mon sentiment personnel est que ça a été un match regardable. On a laissé le ballon à terre, les deux équipes voulaient se procurer des occasions. On a dormi au début de la deuxième mi-temps et on en a pris un coup. Mais on a réussi à se relever. On voulait aussi remercier nos supporters pour leur soutien absolu tout au long de l'année. On voulait mettre au moins un but et finalement, en tout donnant, on a réussi à égaliser en moins de 5 minutes. C'est fantastique et je pense que nous pouvons être satisfaits.
Après cette victoire, Plzeň termine troisième du groupe H derrière Barcelone et Milan, mais devant le Baté Borisov, les Biélorusses du Baté Borisov. La belle aventure européenne du petit poussé tchèque n'est donc pas terminée. Avec au moins deux matchs en 16e de finale de la Ligue Europa, ce sera en février prochain. Et on passe maintenant à la deuxième partie du programme en français de Radio Prague, une deuxième partie consacrée aujourd'hui à l'histoire et plus précisément au rococo pragois. Comment vivait-on à Prague vers le milieu du XVIIIe siècle? Quel a été l'impact des réformes de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur Joseph II sur la vie des Pragois? Des éléments de réponse sont apportés par l'exposition « Le rococo pragois, la vie culturelle et sociale 1740-1791 ». Une expo qui est à voir au palais Klamgalas jusqu'au 22 janvier prochain. Les thèmes légers et sur la joie de vivre caractéristiques du rococo apparaissent à une période qui n'est guère facile pour les Pragois. Leur vie est bouleversée par de profonds changements au niveau de l'administration, l'enseignement et l'église, et plus encore par le bilan désastreux de trois occupations militaires de la ville. Ainsi, les habitations deviennent un centre de la vie des bourgeois pragois du XVIIIe siècle. Plus de 600 objets exposés illustrent le style de vie rococo. L'exposition met également en évidence l'apport de la Bohème à ce mouvement artistique européen qui a vu le jour à la cour de Louis XIV. Jarka Gisubelova a invité au micro les auteurs de ce projet d'exposition.
Chapitre de l'histoire.
To rokoko je společenský pocit, životní styl a určitá atmosféra, kterou...
Le rococo est un sentiment social, un style de vie, une certaine atmosphère par laquelle la société du milieu du XVIIIe siècle réagit à la réalité nouvelle, dure et impitoyable. Il y a une sorte de paradoxe entre la vie qui se déroule à l'intérieur des habitations, entre leur décoration intérieure aspirant à plus de légèreté, à plus de liberté, et les catastrophes venant de l'extérieur. Prague a été plusieurs fois assiégée, plusieurs fois conquise. Elle a eu à payer des contributions sanglantes. La population a connu la faim. Voilà l'image du XVIIIe siècle.
Ces propos sont ceux de Václav Ledvinka, directeur des archives de la ville de Prague, l'un des auteurs de l'exposition avec le musée de Prague. Avec près de 600 objets, tableaux, plastiques, œuvres graphiques, porcelaines, verres, meubles, vêtements, objets d'usage quotidien, livres, etc., l'exposition nous transporte dans l'univers pragois d'il y a 250 ans. Elle s'ouvre sur l'année 1740, date de l'avènement de Marie-Thérèse au trône de Bohême, les 40 ans de son règne de 1740 à 1780 sont marqués par un nouvel affermissement du pouvoir absolutiste centralisé des Habsbourg, et c'est le moment où le baroque, qui a pris une signification politico-religieuse, évolue vers le rococo. À la lumière de ce mouvement artistique, l'exposition documente les événements historiques qui se déroulent alors à Prague, tels que les trois sièges des armées françaises et prussiennes ou les inondations de 1784 qui ont failli emporter le pont Charles. L'exposition est une sorte de sonde dans le style de vie des bourgeois pragois du XVIIIe siècle, explique la commissaire Pavla Statníková.
Životní styl rokokový se rozvíjí tedy po nástupu Marie Terezie na...
Le style de vie rococo se développe après le couronnement de Marie-Thérèse et culmine avec la fin de l'occupation française de Prague, survenue dans le cadre de la guerre de succession. Le style rococo répond avant tout à un important besoin de renouveau. Il se manifeste par une aspiration à la légèreté, au raffinement, au confort, ainsi qu'à la frivolité. Il est caractérisé par son asymétrie. Le rococo est un style de vie, une façon de s'habiller. Il s'exprime de manière éclatante dans la décoration intérieure, à travers le meuble élégant, richement décoré et doté de dorures, la ferronnerie, les figurines de porcelaine, les objets décoratifs non utilitaires, avec l'insertion de peintures, de fresques et de miroirs. La porcelaine et la céramique sont un élément nouveau. Ils font leur apparition dans les résidences de la bourgeoise pragoise du milieu du XVIIIe siècle. Le rococo est en opposition à la période précédente au style baroque imposant et massif de la première moitié du XVIIIe siècle.
Pour Pavla Statníková, le terme rococo est d'origine française. Il résulte d'une association du mot français rocaille qui sert à désigner une ornementation inspirée des lignes contourées des rochers et des coquillages, très caractéristiques de ce style. En France, on parle d'ailleurs plus volontiers de style rocaille, observe Pavla Statníková en évoquant encore une différence, tandis qu'en Bohème, le rococo renoue avec le baroque et évolue vers le classicisme. En France, l'évolution va dans le sens inverse. Le rococo supplante le classicisme. À la question de savoir en quoi consiste l'apport concret de Prague au mouvement rococo, il répond.
En ce qui concerne les arts plastiques, ici à Prague, les artistes les plus représentatifs pour cette période sont le sculpteur Ignaz Platzer, le peintre Norbert Grand, les frères Heger, sans oublier les objets créés par le graveur Joseph Carmine.
Předměty z dílen Josefa Carmineho.
Le théâtre et la musique ont également leur place dans cette exposition, bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de musique rococo. Un événement historique marque la fin du mouvement rococo en Bohème, le couronnement de Léopold II. On écoute Pavla Státníková.
En conclusion, l'exposition rappelle, grâce à un important fond iconographique, le défilé de couronnement de Léopold II qui a traversé Prague. Les étendards des corporations pragoises qui ont alors défilé dans les rues de Prague fournissent un témoignage du mouvement rococo caractérisé par une légèreté et une joie de vivre d'une part et de la fin du siècle marqué par le début de Lumière, le pragmatisme et le développement des sciences.
La période rococo s'inscrit dans l'histoire également par une nouvelle organisation de Prague. Jusqu'en 1784, il existe quatre villes indépendantes, Staré Město, la vieille ville, Nové Město, la nouvelle ville, Malá Strana, le petit côté, et Hradčany, le quartier du château. Sur décision de l'empereur Joseph II, ces quatre villes seront réunies à une seule ville royale, impériale, la capitale Prague. Une administration unique est instaurée, son siège se trouve à l'hôtel de ville de la vieille ville, et elle a à sa tête le magistrat composé de bourgmestres et de conseillers élus. Et ce n'est pas le seul changement administratif, comme le complète Jaroslava Mendelová des archives de la ville de Prague.
Ce qui est important, c'est que le premier registre du cadastre a vu le jour sous le règne de Marie-Thérèse. Il s'agissait d'une sorte de recensement de la population et des maisons à des fins fiscales. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en 1770, les maisons pragoises ont pour la première fois été numérotées. Les réformes menées par Joseph II ont marqué la fin de l'autogestion pragoise en place jusqu'en 1784. Les conseillers du magistrat nouvellement créés se recrutaient chez des fonctionnaires expérimentés. Ils devaient passer toutes sortes d'examens et posséder une formation juridique.
L'exposition présente également les objets du culte. Après l'abolition des couvents et l'interdiction des ordres religieux par Joseph II, la position de l'Église a été confortée par la canonisation de Saint Jean Nepomucène. L'événement inspirait de nombreux artistes. On peut y admirer aussi la reconstitution des bibliothèques qui font partie intégrante des demeures des bourgeois, mais aussi d'artisans pragois. Le catholicisme, qui devient religion d'État, réduit toutefois l'offre de livres. Si avant la Montagne Blanche, un ménage bourgeois sur deux possède une bibliothèque, à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est plus qu'un sur dix. Et quels sont les plus beaux objets exposés? On écoute Jaroslava Mendelová.
Parmi les plus beaux objets exposés figurent les armoiries et les actes par lesquels sont reconnus les privilèges de corporations, dont les jardiniers ou les cordonniers. Les armoiries en miniature de bourgeois pragois sont aussi d'un grand intérêt. Un objet très précieux à noter, la collection d'esquisses de l'architecte Joseph Jäger, qui est venu à Prague du Tyrol dans les années 1750.
Joseph Jäger est entre autres l'auteur des remaniements rococo de nombreux palais de Malá Strana. Le rococo n'a pas laissé de traces profondes sur l'architecture de Prague. Il s'agit plutôt d'éléments extérieurs et de décorations rococo. C'est le cas notamment du palais Goldskinsky sur la place de la vieille ville et du palais archiépiscopal situé près du château de Prague. Je rappelle encore que l'exposition Le rococo pragois se déroule au palais Klamgalas jusqu'au 22 janvier prochain.
Merci à Yarkagi Sibelova pour ce nouveau chapitre de l'histoire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre attention. Retrouvez-nous sur Internet, sur notre site www.radio.cz. Il y a en ce moment notre nouveau concours de Noël. N'hésitez pas, il faut juste cliquer sur le banner « Concours de Noël ». Et pour nous écrire, c'est français@radio.cz, français-sans-cédille@radio.cz. Je vous souhaite une très agréable journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde.